et du Saint-Esprit. Amen. Avec ce signe de la croix, vous percevez que Dieu est famille. C'est incroyable de savoir que Dieu est déjà famille. Dieu est Trinité. Et le Père a voulu que son Fils naisse dans une famille. Est-ce que vous m'entendez dans le fond? Parce que ce matin, c'est tout. Bien, ça va? Moyen. Je vais essayer de me mettre tout proche. Eh bien, on fait peut-être le micro, peut-être on va arranger. Il y a encore des places devant. Alors j'espère que ça va, les mollets ça va. Vous n'allez pas vous endormir, j'espère en tout cas. Mais vous pouvez, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Hein. Donc vous ne tracassez pas, je vais essayer de vous rejoindre. Mais écoutez, c'était incroyable que Dieu, notre Père, a voulu que son Fils naisse dans une famille. Ah, voilà, merci. Et la famille vraiment est un fondement. Vraiment, c'est la... Croyez bien que c'est incroyablement grand, que la famille est la genèse de toute l'humanité. Jésus aurait pu naître de Marie seulement, mais il est né de Marie, de l'Esprit-Saint, et il reçoit un Père très réel, l'ombre du Père, Joseph de Nazareth, bien sûr, vous le connaissez, Père de notre terre, un visage très concret. Et notre pape, je dirais, nous donne une année Saint-Joseph. Vous savez, je sais que certains n'oublient jamais le 19 mars, mais c'est la fête de Saint-Joseph à 19 mars. Continue, vous voyez. Alors profitez de cette grâce pour vous et pour l'Église. Vous savez, Joseph est un puissant intercesseur. Moi, je dirais qu'il est pistonné. Ah oui, pistonné. Ben, écoutez, si vous avez Jésus, Jésus n'a pas oublié ce qu'il a vécu avec 30 ans, son père. Marie n'a pas oublié ce qu'elle a vécu avec Jésus. Et donc, il a des puissants, Joseph de Nazareth. C'est pour ça qu'on le dit si puissant. Alors, je dirais que... On est en famille, hein, parce que j'avais perdu mes feuilles, je les ai retrouvées. Oui, eh bien vous savez que si nous avons cette année, c'est parce qu'on fête les 150 ans d'anniversaire que le pape Pie IX déclarait Saint-Joseph patron de l'Église, donc patron de votre famille. Le pape François nous a écrit une lettre apostolique, et cette lettre, elle a simplement envie de nous faire découvrir et de nous donner l'occasion d'avoir un grand amour pour ce grand saint, pour l'implorer, son intercession. Et croyez bien, quand je vous dis que Joseph est pistonné, je le crois, vous avez pu, peut-être certains, déjà l'expérimenter. Donc je pense que c'était important de voir d'abord que même si l'Évangile parle peu, mais bien suffisamment pour nous faire comprendre qui il est, quelle mission lui a été confiée. Je vous livre un morceau très significatif de l'Évangile. Alors que Joseph avait résolu de répudier Marie sans bruit, l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Je pense qu'il faut s'imaginer le réveil de Joseph, la joie de Joseph. Dieu me redonne Marie. Dieu n'est pas un concurrent. Je participe au plan d'amour de Dieu. Moi, Joseph de Nazareth, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Mais vous imaginez, Joseph avait la plus belle des femmes de l'humanité, superbe, l'Immaculée. Et puis voilà qu'il doit la répudier en secret avec beaucoup d'amour, parce que c'est comme ça. Alors, il ne savait pas très bien quoi. Eh bien, le Seigneur l'a éclairé à travers son ange. Il a vécu une annonciation. Moi, j'imagine que Joseph a dû chanter aussi un magnificat ou un morceau de cantique. Vous savez, c'est beau le morceau des cantiques, hein. Joseph a vécu vraiment une annonciation incroyable. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Marie, mon épouse, est à moi. Viens, ma toute belle, ce qui vit en toi est le fruit de l'Esprit Saint. Alors peut-être souvenez-vous de cette joie toute humaine et toute divine quand vous avez découvert votre épouse, qu'elle vous a été donnée, que vous vous êtes dit oui, que vous vous êtes donné un baiser ou donné la main. Votre cœur a brûlé de joie. Ces événements assez forts pour traverser la route exigeante de la vie en couple. Je pense qu'il faut toujours venir à la source de notre amour. Pour traverser la vie exigeante en couple, alors les retrouvailles de Marie et de Joseph ont dû être superbes. Leur dialogue a exprimé sans doute qu'ils consacraient toute leur vie à Jésus. Jésus serait leur unique et totale préoccupation. Et Joseph a donné à Jésus une paternité légale quand il est parti à Bethléem. Alors souvenez-vous, quand vous avez été à la commune, c'est des gestes tout simples, mais on est fiers, non ? Voilà mon fils. Oui, certains, la première fois, c'est encore tout, quand, il y en a qui y ont été combien de fois. Donc, Joseph est un guide et se laisse guider par l'ange. Je dirais que après le départ des mages, encore voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe. « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fouille en Égypte, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit l'enfant avec lui et sa mère. De nuit, il se retira en Égypte. Et Joseph n'a pas eu le temps de faire 30 jours d'exercice de Saint Ignace pour discerner. Parfois il faut, hein, c'est trop intéressant. Ben voilà, c'est clair, je m'en vais. Allez, viens Marie, Marie. Et c'est vrai, l'âne, c'est pas une légende, c'est tout à fait. Nous en avons même chez nous. Et c'est beau de voir qu'il s'est mis en route dans la nuit, mais il avait la lumière. On peut être dans la nuit, mais vous avez le Christ. Et même si votre foi est ébranlante, eh bien, notre foi va reposer sur la foi de Thomas d'aujourd'hui, ou d'un autre apôtre, ou d'un saint. Je vois Saint Fiacre, patron des jardiniers, qu'on connaît un peu moins, mais il y en a bien d'autres. Et donc, je dirais que se mettre en route de suite, je dirais même à travers les épreuves. Alors la vie de famille, c'est vrai, n'est pas un fleuve tranquille, elle est parfois itinérante, ça bouge. Pour répondre aux appels reçus de notre cœur, ou simplement par les exigences du travail. Mais laissez-vous, cher Père, guider. Laissez-vous guider avec votre épouse, avec l'Esprit Saint. Avez-vous un ange, quelqu'un qui peut vous donner des lumières ou quelqu'un qui cherche avec vous? Vous savez que la prière peut fortement nous aider à découvrir la volonté de Dieu. Priez seul ou priez avec son épouse ou priez en famille. Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parfois de prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps de vivre, prendre le temps de marcher, prendre le temps de souffler simplement pour respirer. Alors, que veux-tu que je fasse? Vous avez un berger en Jésus, vous avez un protecteur en Joseph, qui est aussi le patron de votre famille. Il peut nous manifester des signes, des lumières parfois même très précises. Et puis nous sommes en famille, nous pouvons nous aider, nous entraider par l'expérience déjà des plus anciens. Ici, je crois qu'il y a des jeunes grands-pères quand même. Ils ont déjà quelque chose à nous dire, hein. Il n'y a pas encore d'arrière-grand-père, je crois, mais ça viendra. Mais comme on prolonge, mais enfin, c'est magnifique, toutes les générations. Des générations, des enfants, des papas qui ont des enfants de quelques mois, d'autres de 20 ans, des ados, enfin voilà. Toutes les générations sont présentes, mais nous pouvons nous soutenir à travers même une marche comme ça, à travers l'expérience des uns et des autres. Alors vous vous souvenez d'un épisode dans l'Ancien Testament, de la famine en Égypte, quand les gens demandaient du pain au Pharaon. Il répondait, allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. Eh bien, vous aussi, allez à Joseph de Nazareth. Comme Joseph, le fils de Jacob, a ouvert ses greniers de blé à toutes les nations, eh bien, ainsi, Joseph de Nazareth vous ouvre au pain de vie Jésus lui-même. Il nous donnera ce qu'il faut dans nos besoins de famille, de travail, d'éducation pour nos enfants. Je dirais ici qu'il y a bien des pères ou des frères qui pourraient témoigner de l'efficacité de son intercession. Et parfois il faut du temps, même parfois des années. Je me souviens d'une famille qui était désolée de ne pas avoir d'enfants. Et il les voulait d'une manière naturelle, pourrait on dire. Et il y a un jour le père qui me dit, j'en ai ras le bol de tes prêts, tu me dis toujours prie de Saint-Joseph, prie de Saint-Joseph, il n'y a toujours pas d'enfants. Ben, je dis, écoute, espère encore un tout petit peu. Je dis, c'est la fête de Saint-Joseph dans quelques jours. Et puis trois semaines après, il y a sa femme qui me téléphone, je suis enceinte. Il était conçu le jour de Saint-Joseph, après 10 ans. Alors, ils en ont 3 maintenant, mais je trouve ça tellement beau, il dit, mais oui, tiens, persévère, et bon, mais je l'aime dans le couple, et voilà. Enfin voilà, il faut y croire, bien sûr, mais c'est beau, ces enfants, c'est des remuants, hein, des petits terribles. Hein. Donc il faut parfois insister, il faut être persévérant à certains moments. Hein. On peut parfois casser les pieds à Jésus, il le permet hein, de frapper, et puis comme cette veuve qui vient trouver son juge unique, et puis qui a gain de cause. Donc persévérez dans la prière, sans vous décourager, même en vous décourageant, il faut continuer. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a aussi Marie. Avec elle, ils sont très puissants. Et nous sommes près de Banneux, la Vierge des pauvres que nous sommes. Mais c'est incroyable de savoir que Jésus peut nous sauver de ce qui nous préoccupe. De voir qu'il est un sauveur. Pas seulement ce nom sur les cartes ou la prière qu'il est notre sauveur, mais de savoir... Qu'est-ce que vous voulez qu'il sauve en vous? Dites-lui ce qu'il y a à sauver, concrètement, bien, personnellement. Alors, on comprend que l'Église a trouvé en Joseph un protecteur doué d'un esprit de décision. Alors, je vous donnerai encore quelques exemples, un tout petit peu. Il y a peut-être 40 ans passés, j'étais désolé de ne recevoir aucun frère dans la petite fraternité où j'étais. Ils partaient tous les uns après les autres. Je n'en pouvais plus. Et dans toutes les communautés, ils étaient 10, 20, 30, 40, et je ne sais pas qu'on me demandait combien. Un. Personne. Bon, alors quelqu'un m'a dit, mais écoute, prie Saint-Joseph. Ben oui. Et on me disait que les carmélites le priaient beaucoup. Je dis, ben, j'ai même fait une petite statue en terre, j'ai prié Saint-Joseph. Alors, quelques années après, un jour, j'étais en train de construire une chapelle dans le bois, dans la foi, vraiment, c'était comme tout en pierre. Un jeune est arrivé, il m'a dit, ben, moi j'ai toujours rêvé de construire une chapelle, une charpente d'église. Je lui réponds, ben, si tu veux que tu peux venir. Je lui demande son nom, je m'appelle Joseph. Oula. Alors je lui dis, Marc, prudent, ne fais pas encore des illusions, hein, c'est peut-être ça, mais on verra bien. Et puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis menuisier charpentier. Ouh, là, là. Mais c'est vrai cette histoire-là, hein, c'est pas un conte de fées. Hein. Eh bien ce Joseph est devenu le premier frère de la fraternité, et il est toujours là, il m'a terriblement aidé, et il est même là avec nous aujourd'hui. Hein Joseph, où est-ce que tu es Joseph? Ah ben voilà, frère Joseph. Vous voyez, c'est vraiment dans la foi. Alors depuis lors, Saint-Joseph, hein, il est devenu le patron du noviciat. Hein. Alors, mais croyez, une chose qui est aussi importante, alors voilà, c'est la joie qui s'exprime. Voilà. Je vous dirais aussi que Joseph est toujours dans tout ce qui commence. Ben, le début de l'Église, où Saint-Joseph est aussi dans tout ce qui recommence. Donc il a été à l'aube du salut, au tout début de l'Église naissante, cette petite Église Jésus-Marie-Joseph, c'est plus facile de retenir JMJ, c'est plus facile. Jésus-Marie-Joseph, plus encore jeune. Hein. Alors, je crois que depuis quelques années, Joseph est redécouvert avec force, justement dans les temps d'aujourd'hui, lorsque l'Église est en danger. Joseph, tu es là comme un guetteur, comme un veilleur, comme un protecteur, mais vraiment. Alors continuez à découvrir Joseph, prenez-le chez vous comme vous avez vraiment, je suis sûr, déjà pris Marie. La Sainte Famille de Nazareth, c'est génial. C'est pas du tout rétro, hein. Bon, il y a des images qui le sont un peu, hein, mais c'est très réel. Et voici ce que disait Benoît XVI il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, vous savez, il est encore jeune. Hein. L'Église ne peut croître et prospérer si elle ignore que ses racines cachées plongent dans l'atmosphère de Nazareth. C'est toujours en revenant à ce point de départ que l'Église doit se régénérer. Donc d'aller toujours à la source. Alors, cher Père, allez puiser à Nazareth des sources pour votre famille. Paul VI, un de ses premiers voyages qui a donné à d'autres papes de beaucoup voyager, eh bien, a été à Nazareth et il a écrit une superbe méditation. Elle peut être très précieuse pour votre famille. Recherchez-la sur vous, parce que vous êtes habile à retrouver des textes comme Paul VI, méditation sur la famille de Nazareth, sur Nazareth, l'esprit de Nazareth. Alors voilà ce qu'il dit, je dis quelques mots pour ne pas être trop long, que Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille, sa communion d'amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable. Apprenons de Nazareth comment la formation qu'on y reçoit est douce et irremplaçable. Une leçon de travail. Nazareth, aux maisons du fils du charpentier. C'est ici que nous voudrions comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain, la noblesse du travail, et que le travail ne peut être une fin en lui-même. Donc n'oubliez jamais que vous ne travaillez pas pour le travail, vous travaillez pour votre famille, quoi, et que le but, c'est votre famille. Donc sachez parfois gagner un peu moins pour être un peu plus là. Oh mon poulet, qu'est-ce que votre femme vous dit peut-être ça quand elle vous voit arriver 2 heures plus tôt, ou déjà un quart d'heure plus tôt, c'est déjà pas mal pour certains. Mais c'est vrai, donnez du temps à votre famille, on le redit, mais prenez-le. C'est un placement très important. C'est une question d'avenir, de prendre du temps de gratuité, de gratitude avec votre épouse, vos enfants, le prendre de temps de vivre pour ne pas se laisser presser comme un citron, parce que vous avez des patrons qui sont comme ça, mais il y en a d'autres qui peuvent être compréhensifs, mais se dire non. D'abord, c'est vieux cette histoire-là, vous savez, c'est Johnny Hallyday qui avait dit « j'ai réussi ma carrière, mais j'ai raté ma vie ». Enfin, c'est un vieux bazar, mais peu importe, mais réussissez votre vie, et tant mieux si on réussit les deux, hein, évidemment. Donc je pense que c'est des choix, mais je pense que si vous êtes en marche comme vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous voulez. Eh bien, continuez sur ce chemin, ne vous découragez pas, même s'il faut du temps pour arriver à un équilibre. Donc, mais je dirais que, aussi à travers Joseph, aimons le travail de nos mains. Nous sommes parfois, mais beaucoup trop sédentaires, trop assis. Qu'est-ce que ça vous a fait du bien de marcher cet après-midi? Ça fait partie de la réussite de la journée, marcher. Je sors de mon bureau, je sors de mon ordi, je ne sais tout quoi, mais c'est tellement important. Alors aujourd'hui, vous savez qu'il manque des artisans compétents. Il y a trop de bureaux. Donnez à vos enfants l'occasion de bricoler, de travailler, de jardiner avec eux, et même de travailler autour de votre maison ou dans la maison, bricoler. Je m'excuse, je vous dis ça, vous le faites déjà peut-être, hein, mais le travail des mains courageux et intelligents aura de l'avenir. Parce qu'on ne peut pas construire que des bureaux quand même. Il faut des choses pour les vendre, pour vendre des trucs dans les bureaux. Et donc avec ce retour même, un autre style de vie à travers ce qu'on a connu, préparez vos enfants à ouvrir des chemins nouveaux. Il faut même découvrir de nouveaux métiers qui pourront naître et qui peuvent être très créatifs, et même que parfois les jeunes ne se rendent pas toujours compte qu'une certaine paresse et un confort les, les conditionne à choisir des métiers assis. Et par contre, il y en a tout d'un coup qui se réveillent à vouloir faire autre chose. Donc moi j'espère que dans les universités, un jour ils construiront leur université, qu'ils auront un jardin potager et qu'ils feront la cuisine, quoi. Je rêve, c'est une manière de dire, c'est pour envoyer un petit coup de pouce dans des choses comme ça, parce qu'on est trop, je dirais, trop lisse. Enfin, je me dis même dans les écoles, mais qu'on fasse un peu plus de sport, un peu plus de travail manuel ou des choses pareilles, quoi. Je m'excuse, mais bon, moi je ne suis pas dans l'éducation nationale, mais je vois ça. Et je vois que les jeunes, quand on les met au travail, eh bien ils aiment ça, faire des chantiers, bricoler. N'hésitez pas même de construire une petite chapelle dans votre jardin. On en voit partout, des anciennes, mais il faut actualiser, même bricoler. C'est pas plus difficile de construire une chapelle qu'un garage. Il faut des autorisations, mais vous pouvez toujours. Hein. Alors, enfin, c'est des petites choses que je vous dis, peut-être que vous, voilà, moi qui me donne, vous savez, même à travers cette ouverture avec l'écologie, il va y avoir des nouvelles possibilités ou des choses qui vont être redécouvert ou à créer. Il y a même en France des villages François qui s'inspirent de Saint François d'Assise et du pape François pour vivre, je dirais, d'une manière évangélique ou prophétique. On commence par des petites choses, on tend moins la pelouse et on fait un peu plus de jardin potager. C'est possible, on plante des vergers. Vous faites déjà peut-être tout ça, hein. Où on se contente de ne pas toujours changer de cuisine. Enfin, je dis ça parce que on cherche la sobriété et tout ça, une vie simple. Donc soyez créatifs, faites des pèlerinages encore. Marchez avec vos enfants. Je dirais même vivre nos enfants qui ont besoin de voir autre chose, parfois ou voir des communautés vivantes ou des paroisses, mais aussi de voir des lieux qui vont se souvenir. Vous savez, moi, quand j'avais 8-10 ans, j'étais en France sur le porte-avions à Cannes, sur le Méditerranée, le France de l'époque. Un grand porte-avions, c'était impressionnant, presque sur la Méditerranée. Et puis mon père m'a amené aux îles Les Reims. J'ai vu pour la première fois des moines, j'avais l'impression de voir que c'était des anges. Non, je sais même que ce n'est pas des anges. Mais c'était impressionnant, vous savez. Aller avec son fils et aller voir un monastère, ça paraît incroyable, mais on n'oublie pas ça. Toutes les petites choses que vous faites avec vos enfants, que ce soit votre fille ou votre fils, surtout quand ils sont petits, ça marque. Ou prier. Ou bien mon père, parfois, était un petit-fils, il était un peu exigeant avec moi. Et puis un jour, il m'avait tapé avec la Libre Belgique. Et puis il s'est rendu compte qu'il s'était trompé. Eh bien, il a dit pardon. Il a même été acheter une balle, un truc de ping-pong pour jouer. Une manière de dire, bon, on peut se tromper, de voir le père qui est dur, exigeant, mais qui sait aussi être tendre. Donc, vivre avec le Christ, vivre du Christ et son évangile, croyez que vous n'êtes pas ringard, vous êtes même des avant-gardistes. L'Église n'est pas en retard, elle est plutôt même en avance. Elle travaille pour l'éternité. Elle ne prend pas des positions mondaines. Je vous dirais, la chose qui me tient le plus à cœur dans l'Église et que je crois fermement qu'elle est une réserve de bon sens. Et Joseph en est le gardien. Et il sert aussi, je dirais, la grande Église, mais votre petite Église domestique. Et si vous aimez Joseph, c'est que vous aimez aussi l'Église. Si vous aimez Marie, c'est que vous aimez l'Église. Et le Christ, bien sûr. Donc, continuez à ne pas oublier Marie quand vous parlez de Joseph. N'oubliez pas Joseph quand vous parlez de Marie. Alors, je dirais, cher père, cher frère, mais continuez à mettre la priorité sur votre famille. Jésus a sanctifié la famille en y naissant. La famille est un trésor pour l'humanité. Elle a une raison même sociale, c'est le socle du monde. La famille, votre famille. Continuez à l'aimer. Continuez à prier. Réapprenez à prier. Redécidez. La prière, c'est souvent une décision. Et comment prier ? Ben, en priant, vous allez apprendre à prier. Reprenez des décisions de prier seul ou en couple ou dans un groupe de prière ou même vivre ce dimanche, l'air de rien, c'est pas banal ce point de repère. Simplement fidèle à quelques points bien, bien précis, qu'on ait envie ou pas, on y va. Alors croyez bien que vos petites maisons, vos maisons familiales, sont des maisons de lumière, des foyers d'amour, même si on sait bien que ce n'est pas un fleuve tranquille, mais que vos petites églises éclaireront la grande église. Tantôt, en tout cas, nous avons traversé des rivières, des ruisseaux. Eh bien, il coule une source dans les foyers branchés sur l'Évangile. Et ces familles viendront ou viennent déjà rafraîchir l'Église. L'Église n'a jamais peut-être été aussi pauvre, mais elle est belle, purifiée. Vous savez, le Christ s'est livré pour elle, pour l'Église. L'Église, c'est la chair du Christ. Aimez l'Église comme vous aimez votre épouse. Le Christ s'est livré pour elle. Ne séparez jamais non plus le Christ de l'Église. Le Christ et l'Église, c'est un couple, c'est-à-dire que le Christ s'est lié à toute l'humanité. Quand on dit le Christ et l'Église, l'Église, on la voit, mais le Christ s'est livré pour toute l'humanité. L'Église veut se donner aussi à toute l'humanité. Et vos familles seront semences et ensemeront le grand champ de l'Église à moissonner. C'est que la famille est le premier noviciat, premier séminaire, mais la famille est aussi le berceau des futurs foyers de lumière. C'est incroyable tout ce qui peut naître dans une famille. Écoutez, le pape François nous dire quelque chose de très beau sur la paternité. Ça va, je suis dans les temps. Alors. Dans la société de notre temps, les enfants semblent souvent être orphelins de père. Attends, je me demande si c'est bien cela. Oui, c'est ça. Même l'Église d'aujourd'hui a besoin de pères. Saint Paul dira, mes petits-enfants, que je vous enfante à nouveau dans la douleur jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à l'expérience de la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départ. C'est peut-être pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a qualifié Joseph de très chaste. La chasteté est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. La logique de l'amour est toujours une logique de liberté. Et Joseph a su aimer de manière extraordinaire, d'une manière extraordinairement libre. Il ne s'est jamais mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. De se dire de mettre au centre votre épouse et vos enfants. Et vous serez d'autant plus père de se sentir serviteur. Est-ce que je suis serviteur de mon épouse et de mes enfants? Être vraiment serviteur du bonheur de vos proches. Et automatiquement, la femme aussi, vous avez une aide super puisque le Seigneur nous dit dans la Genèse que vous avez reçu une aide mutuelle pour être aidé. Que chaque enfant porte toujours avec soi un mystère, un inédit, qui peut être révélé seulement avec l'aide d'un père. Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d'exercer la paternité, nous devons toujours nous rappeler qu'il ne s'agit jamais d'un exercice de possession, mais d'un signe qui renvoie à une paternité plus haute. En un certain sens, Nous sommes toujours tous dans la condition de Joseph, une ombre de l'unique Père céleste. Alors vous savez que cette année, il y a même attaché à cette année Saint-Joseph une indulgence plénière. Moi je me demandais ce que c'était, quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Église nous dit, l'Église nous libère de tout ce qui reste des conséquences du péché. Simplement, dans le sacrement du pardon, les péchés sont effacés. Cependant, il demeure l'empreinte négative des péchés dans nos pensées, dans nos comportements. Mais la miséricorde de Dieu est plus forte. Et pour la recevoir, il est bon de vivre une confession. Il y a pas mal de prêtres qui sont parmi nous. Et si on a... Si vous n'avez pas eu le temps ce week-end, vous pourrez le faire après. Il nous faut vivre aussi une Eucharistie, prier aux intentions du pape, et puis méditer sur Saint Joseph. C'est ce que nous dit un peu là. Ben, vous êtes en train de le faire, donc ça, c'est déjà gagné, quoi. L'Eucharistie, vous l'avez déjà eu. Confession, ben, vous allez demander là. Il y aura un soir, on pourra, même ce soir, je crois. Alors, et c'est beau parce que dans ces conseils, l'Église, à travers cette année de Saint-Joseph, nous invite à prier le chapelet en famille, entre fiancés, même ce petit, vous êtes plus que fiancés, vous êtes mariés, mais si vous voyez des fiancés, mais pas toujours facile, et de prier de bien des façons, lire la parole de Dieu, parce que c'est tellement grand, ne vous découragez jamais de ne pas prier assez. Vous voyez déjà ce que vous priez. C'est déjà un début. Et puis il y en a d'autres avec le temps, mais c'est une question de persévérance. Et puis il peut y avoir des prières très courtes. Mon Seigneur et mon Dieu, comme je dis, Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, je n'en peux plus. Voilà. Ce sont des cris parfois. C'est vraiment parfois un simple notre Père, mon Père. Qu'est-ce que tu veux? Il me casse les pieds. Mais vous lui dites, donne-moi de l'aimer. Il dit, écoute, c'est pas possible. Il m'a encore agacé deux fois, mais s'il te fait souffrir, mais il souffre aussi de toi peut-être. Mais voilà, vous pouvez parler avec tant de simplicité. Alors, je dirais pendant les vacances, lisez la lettre du pape Joseph, Père par le cœur. Et cette indulgence, si vous l'avez déjà vécue, elle peut être offerte à quelqu'un, un proche ou à quelqu'un d'autre. Alors, je termine. Oui, je suis venu avec trois statues de Saint-Joseph pour exprimer qui il est. Bon, mon métier, c'est de suivre le Christ, mais j'ai un petit métier aussi, j'étais sculpteur, mais pour moi, je n'ai pas pu beaucoup vivre cette sculpture. Pour moi, c'était de sculpter une communauté, de donner un visage à une petite famille religieuse, Tibériade, mais... Non, je suis encore bien occupé, mais je dirais que j'ai un peu plus de temps de faire des sculptures, alors j'en ai refait ici. Je dirais, mais voilà. Elles font du bruit parce qu'elles sont en bronze, vous voyez. Alors, je dirais ici, c'est Joseph qui veille sur Jésus, la lumière du monde. Et puis, vous voyez Joseph qui porte une gerbe de blé. Parce qu'il peut travailler aussi à la moisson de l'Église pour donner... Saints prêtres, des saints religieux, mais des saintes familles aussi. Vous savez, aujourd'hui, la famille, qu'elle soit sainte, une famille qui est sainte, ben, c'est une famille qui se relève tous les jours, quoi. Et voilà. Donc Joseph est important parce qu'il a veillé, qu'il veille sur le Christ et qu'il veille sur l'Église, qu'il veille sur votre petite maison. Et puis après, j'ai fait Joseph avec deux petites colombes quand il présente Jésus avec Marie au temple. Et ces deux petites colombes, pour moi, c'est le couple. Soignez votre couple. C'est une manière de l'exprimer, quoi. Joseph, et puis soyez candides comme des colombes, rusés comme des serpents. Une famille, mais j'en parlais peut-être dans le deuxième enseignement, être appelé à être juif de Nazareth, mais à être aussi missionnaire. Mais de savoir qu'un amour est fragile, qu'il faut toujours de la bienveillance et de la patience et de la persévérance. Et Dieu nous prend où nous en sommes, même à travers les échecs. Alors, ici, j'ai voulu faire un Joseph un peu papa moderne. Vous voyez, Jésus qui est sur les épaules de Joseph, et Jésus bénit Joseph, lui gratte les cheveux, peu importe, mais c'est simplement une manière de, je veux dire, oui, d'exprimer. Aujourd'hui, je trouve ça tellement beau quand je vois un papa qui porte son enfant comme un petit agneau, et puis qu'il est tout fier, là, et sa femme est ravie de voir l'enfant sur ses bras. Enfin, je trouve ça tellement beau. Et c'est beau d'être père. Vraiment, c'est magnifique. Et vous l'êtes toujours, vous le serez jusqu'à la fin de vos jours, quoi, en plus. On l'est peut-être d'autant plus quand ils sont petits, mais même les grands, l'air de rien, ils vous regardent, hein, et ils vont faire toutes les belles grimaces que vous faites. Moi, je vois que je ressemble à mon père maintenant que j'ai 70 ans. Hein. Je me dis, je l'aurais, qu'il était vieux à 70 ans, mais on fait les mêmes grimaces, peut-être en espérant aussi les qualités aussi. Hein, mais je dirais que c'est incroyable comme on imite son père, quoi, ou sa mère aussi. Hein. Donc, ils vous regardent, ils voient, alors faites des belles grimaces, quoi. Hein. Donc, il vous singe. Ben voilà, avec le beau, le moins beau, mais vous ressemble, quoi. Mais ce qui est beau, c'est que nous sommes appelés à ressembler de plus en plus à Dieu. Alors, voilà, je dirais, je pense que j'ai terminé. Hein. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Alors là, c'est pas pour faire de la publicité, mais bon, c'est pas bon que ça reste dans une armoire. Nous avons édité un petit livre, Joseph de Nazareth, l'homme du réel. Vous pourrez en avoir à Banneux, je crois. Hein, c'est ça. Il y a une petite table, tout cela. Ce n'est pas une question de commerce, c'est une question que même d'évangéliser, de voir combien la famille a du prix et qu'il y a des témoignages d'autres familles. Enfin, vous verrez tout cela. Et maintenant, peut-être je vais vous laisser poser quelques questions, c'est ça? Alors, ce sera des réponses très courtes, hein, parce que comme il nous reste 5 grosses minutes. Oui.
Vous parlez d'église domestique. Effectivement, oui. Vous avez aussi enseigné l'église domestique lors de notre retraite de préparation au mariage.
Oui.
Ça donne un peu une vision idyllique.
Idyllique.
De famille comme un couple cohérent.
Oui, voilà.
Et quand les enfants deviennent plus grands ou même déjà petits sont réticents, qui s'éloignent, qui font front, cette église domestique, elle est comment?
Eh bien, elle n'est pas facile, je me dis, c'est pas un fleuve tranquille. Même Nazareth, regardez un tout petit peu ce qu'a vécu Marie et Joseph, ça n'a pas été évident non plus. Évidemment, Jésus est Jésus, mais il a fait quand même sa fugue et tout ça. Ton père et moi, on s'est inquiétés, c'est aussi ça. Hein. Et puis, Joseph qui meurt et que Marie reste avec Jésus, tout cela. Je dirais que la famille domestique, il ne faut pas du tout l'idéaliser. Il faut aussi percevoir que dans un couple, mais j'en parlerai, il y a toujours des épreuves. Il y a le mystère de Pâques, il y a la croix aussi, mais il y a la résurrection. Donc, et même on voit des familles qui vivent des épreuves avec leurs adolescents, des choses incroyables où c'est dur, mais ça reste une église parce que il y a aussi cette alliance. Même ceux qui se sont séparés, ben, ils sont toujours famille. Donc il ne faut pas croire que la famille de Nazareth, elle est idéale, oui, mais elle a vécu des épreuves, ce n'a pas été facile. Et donc que toute famille, ça ne roule pas sur des roulettes, ça crie, ça pleure, c'est pas toujours l'harmonie même avec son épouse ou elle avec vous, que sais-je. Mais je dirais, c'est de vivre dans l'espérance, parfois des moments de lumière, quoi. Il y en a, mais il faut les saisir, quoi. Mais ça demande aussi du travail, quoi. Donc, et puis l'aide mutuelle de votre épouse, de pouvoir prendre le temps, quand on voit le temps qu'on prend pour étudier, mais le temps qu'il faut pour travailler, il faut prendre aussi le temps pour travailler son couple, sa relation à Dieu, ce temps où on discute à propos des enfants, qu'est-ce qu'on va faire. Donc ça demande aussi un travail, c'est un labeur aussi la famille. Parfois c'est un fleuve tranquille, mais de temps en temps, mais pas toujours, quoi. Enfin, il y a les deux. Hein. Donc, quand je voyais un moment, quand ma maman disait à mon père, oh, quand je vois Baudouin avec Fabiola, c'est si beau, c'est comme ça que je voudrais que tu sois avec moi. Ben voilà, ben Fabiola et Baudouin, oui, c'était beau, mais ils ont aussi souffert, ils n'ont pas eu d'enfant, et qu'est-ce que c'est, ben, ils n'allaient pas se disputer devant la télévision, évidemment. Hein. Ils pouvaient s'aimer, mais ça demande aussi des tensions. Hein, mais je sais que Baudouin disait, Fabiola, je veux un peu la calmer parce qu'elle a d'une imagination volcanique, elle est une Espagnole, elle oublie qu'elle est parfois une petite reine, donc je vois un tout petit peu. Enfin, donc, on voit toujours que c'est plus beau chez les autres. Mais voyez ce qui est beau aussi chez vous. Oh, ce couple, je vois des gens qui disent que leurs enfants, mais c'est incroyable comme ils se tiennent gentiment à l'église, ils ne bougent pas.
Tant que les miens, ils commencent à crier, ça bouge. Je n'ai même pas le temps de prier, quoi. Mais c'est aussi ça, la famille, quoi. Voilà. Mais on leur apprend quand même, et ils finissent à se rendre compte qu'il vaut mieux pas trop chahuter longtemps et à chaque messe. Mais au début, c'est comme ça. Il faut que ça bouge à l'église, il faut que les enfants puissent jouer devant l'autel, et qu'est-ce que vous voulez, c'est normal, quoi. Mais je dirais que ça demande un labeur, la famille, et c'est pour ça qu'il faut du temps aussi, et aider son épouse. Mais je vois de plus en plus de pères qui se mettent aussi à bien se mettre dans des jeunes pères, en tout cas, mais il y en a souvent dans les plus âgés aussi, à être très vaillants et à aider bien leur épouse et prendre conscience qu'ils sont pères et que c'est important qu'ils soient là avec l'épouse et qui discernent ensemble, qui construisent, et puis qui remettent, là je n'ai pas de solution. Ben voilà, on leur met au Seigneur et puis il y a des grâces et puis voilà. Il y a des choses qui nous dépassent tellement parfois dans la famille, hein, des enfants magnifiques et puis d'autres qui sont rebelles et pour la même éducation pourtant. Oui.
Vous voulez bien, je trouve très beau cette notion d'être serviteur à la famille, pour nous serviteurs de l'épouse, serviteurs des enfants. Mais en même temps, il y a des points de grande place de l'esprit saint, je pense, en tant qu'époux, père, grand-père.
Oui.
Pour rappeler l'équilibre qu'on doit tenir entre la famille ou pas et les engagements aussi à l'extérieur pour avoir justement un bon équilibre. Parce que si on est. Si on se cantonne trop à la vie, de famille, il risque d'y avoir.
Si on est trop quoi, au père de famille?
Si on se cantonne trop, si on se lie trop à la vie de famille, il y a un engagement à l'extérieur.
Absolument. Mais justement, chaque. Oui, mais la famille, normalement, est appelée à s'ouvrir. Et une famille qui serait comme un petit cocon, c'est pas bon. Elle a besoin d'être ouverte, d'être traversée, d'être même missionnaire et de prendre des engagements là où le Seigneur l'appelle, où les circonstances. Et c'est évident, sinon, on tourne en rond et tout. Oui, mais il y a c'est d'une famille à l'autre. Hein. Je vois des familles qui vont être plus restées à la maison que vont poser dans Nazareth, et puis il y a des familles qui vont bouger, qui vont partir même comme missionnaires dans des pays étrangers et des choses pareilles. Donc là, une famille n'est pas l'autre, et chaque famille a sa sensibilité, mais toute famille est appelée en tout cas d'avoir une grande ouverture, quoi, autour d'elle et dans un lieu raccroché à une communauté ou à une paroisse. Elle peut pas être elle-même toute seule, quoi. Elle est aussi formée par la relation qu'elle a avec d'autres couples. Quand on voit des Notre-Dame ou des groupes de famille ou des groupes de mères ou de pères ou que sais-je. Mais regardez-vous, vous êtes pas resté à la maison. Vous êtes entre pères et tout, mais c'est pour vous ouvrir aussi. Mais ça va aussi renforcer et aérer votre vie de famille en rentrant, d'avoir vu parfois des pères vivre les mêmes situations ou les mêmes joies, tout cela. Donc c'est sûr qu'il nous faut une ouverture.
Oui.
S'il vous plaît.
Vous avez lu un extrait.
J'ai lu un extrait du pape François. C'est dans, justement, Joseph, père par le cœur. C'est la lettre qu'il a écrite, vous voyez, pour le 105e anniversaire. C'est très beau, c'est pas long. Moi, je vous invite à lire ça pendant les vacances. Quoi, hein. Oui. Eh bien, voilà.